On va maintenant accueillir le directeur de l'AEFE dans la zone radio. Alors tous ceux qui ne sont pas encore connectés à notre émission, venez près de la scène s'il vous plaît, ceux qui veulent entendre l'émission.
Bonjour.
Alors on accueille aujourd'hui le directeur de l'AEFE. Bonjour.
Quentin.
Alors on est en compagnie justement de Luna. Lucas, tu vas...
D'accord. Tu veux pas te donner un micro par là-bas? Comme ça on partage le micro. Luna, tu peux décaler les micros maintenant. Ou tu vas prendre un micro.
Balance.
Parlez bien près du micro. Au fond.
Ok.
On est bon.
Donc bonjour à tous et bienvenue sur Macan Radio, donc la radio du lycée français de Singapour. Donc on accueille aujourd'hui le directeur de l'AEFE. Donc bonjour monsieur.
Bonjour.
Et donc il y a plusieurs intervenants. Donc Lucas va nous introduire le sujet et parler justement, interviewer.
Oui, donc juste un petit mot bref avant de passer le micro à ma collègue en cinquième. On va vous parler du programme ADN qui est un programme d'échange et on va vous parler de l'AEFE et du président de l'AEFE et de quelles sont ses tâches et quel est son rôle dans ce réseau mondial de lycées français. Donc je te passe le micro.
Tout d'abord, ADN sont les initiales de Alexandra David Neel et AEFE sont les initiales de Agence pour l'enseignement français à l'étranger. ADN est un programme d'échange entre les élèves pour les introduire dans un nouvel environnement familial, scolaire et linguistique, ce qui signifie qu'ils peuvent apprendre d'autres langues.
As-tu des questions à poser aux élèves qui ont participé à cet échange?
Combien de temps dure votre visite au LFS?
Moi je m'appelle Lydia, je viens de Madrid et je reste 5 semaines au lycée français de Singapour.
Je m'appelle Elliot, je viens de Lisbonne et je vais rester un mois.
D'accord. Avez-vous déjà participé à un programme d'échange auparavant?
Non, jamais.
Non plus.
Moi, oui. Aussi au LFS, je suis parti à Taïwan pendant une semaine. Et donc, voilà.
Et donc, si je puis me permettre, Lydia et Elliot, quelles ont été vos motivations de venir à Singapour et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici?
Alors tout d'abord, j'ai su que cette école avait beaucoup de prestige, donc je voulais connaître une nouvelle type d'école, un peu plus moderne que celle de Madrid, qui va faire presque 135 ans, je pense. Et aussi, mes motivations étaient d'apprendre l'anglais et d'être dans une nouvelle culture, la culture asiatique, et vivre avec une autre famille.
Moi j'avais envie de partir dans un pays asiatique de base, de voir comment ça se passe et connaître la culture et en apprendre, savoir des choses quoi. Et donc on m'a proposé Singapour et c'était un de mes premiers choix, du coup j'ai décidé d'y aller dès que l'opportunité est apparue.
D'accord. Il y a plusieurs lycées français qui participent à l'ADN, duquel venez-vous?
Moi, je viens du lycée français de Madrid, en Espagne.
Lycée français Charles Lepierre à Lisbonne.
D'accord. Merci beaucoup. C'était très intéressant de vous parler. On aura l'occasion, au fil de la discussion, de revenir à vous et de votre expérience au lycée français de Singapour. Monsieur Bouchard, bienvenue au lycée français de Singapour. C'est notre plaisir de vous recevoir. Donc, en préparant cette interview, j'ai regardé votre parcours et ce que vous avez fait auparavant, avant d'être directeur de l'AEFE, et vous avez un parcours assez fulgurant. Donc, vous avez fait carrière dans la diplomatie, si je ne me trompe pas. Vous étiez ambassadeur au Niger. Oui. Vous étiez conseiller économique et consulaire à Miami. Vous avez été en charge de la direction des Français de l'étranger et de l'agence consulaire d'Hongrie. Et en fait, ma question est la suivante. Quelles sont les compétences que vous avez acquises en diplomatie que vous appliquez dans votre rôle en tant que directeur de l'AEFE et quelles sont les différences de parce que fondamentalement c'est un domaine assez nouveau pour vous l'enseignement et quelles sont les différences que bah que l'AEFE vous présente.
Merci. Alors et merci pour vos questions, c'est des questions très très intéressantes. Alors sur les compétences que j'ai acquises, bon, comme j'essaye d'être modeste, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Je dirais que peut-être le fait d'avoir une assez longue carrière, parce que je suis un peu plus vieux que le lycée français de Singapour, pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. C'est d'avoir été dans des pays différents, dans des postes, d'avoir vu, s'agissant des lycées, comment fonctionnent les lycées dans différents environnements, et puis l'importance des lycées pour la politique étrangère de la France et pour les communautés françaises, puisque moi, comme vous l'avez dit, je suis au départ un diplomate, et l'AEFE est une agence qui dépend du ministère des Affaires étrangères, donc. Mes prédécesseurs ont été le plus souvent des diplomates. Il y a eu quelques directeurs qui venaient de l'éducation nationale, mais la plupart des directeurs sont venus des affaires étrangères. Et je crois que l'intérêt, c'est ça, c'est de connaître le monde diplomatique, de savoir un petit peu comment un lycée peut fonctionner à l'étranger, parce qu'un lycée ne fonctionne que grâce à l'autorisation, à l'accueil des autorités locales. Et puis de connaître les communautés françaises qui sont parmi les principaux utilisateurs en tant que parents d'élèves des lycées. Et puis comprendre l'importance de ces lycées dans la politique culturelle, ce qu'on appelle maintenant la politique d'influence de la France. Parce que les lycées français, comme vous le savez, c'est non seulement des lycéens français, mais c'est aussi des lycéens étrangers. Et grâce aux lycées français, il y a des centaines de milliers d'élèves qui apprennent le français, qui et non seulement la langue française, mais un petit peu la façon française de penser. Donc voilà, donc le fait d'avoir eu une carrière dans la diplomatie avant d'occuper ces fonctions, ça m'a permis de bien mettre en... d'avoir une conscience de l'importance des lycées français dans la vie des communautés françaises à l'étranger et dans la diplomatie française. Après, j'ai appris plein de choses, plus sur le contenu de l'aspect pédagogique, le fonctionnement des écoles, parce que à l'intérieur des écoles, ça fonctionne un petit peu comme les lycées en France. Et ça, c'était effectivement plus un domaine nouveau pour moi.
Et justement, je rebondis là-dessus. Vous avez parlé de la place du français et du rôle du français. Ce mardi 20 mars, nous fêtions la fête de la francophonie. Et Emmanuel Macron a eu l'occasion de dire qu'il souhaitait faire du français la troisième langue mondiale. Quel rôle l'AEFE peut jouer dans la réalisation de cet objectif? Est-ce que vous pensez qu'il est réalisable, atteignable? Et est-ce que vous pensez que... Oui, ce sont mes questions. Ouais.
Alors effectivement, le président a fait un discours important sur la francophonie et à l'intérieur de la francophonie. Alors il y a plein de choses. Il y a plein de dimensions pour développer la pratique du français dans le monde, en dehors de l'éducation. Il y a évidemment... En dehors des lycées, il y a les alliances françaises, les instituts français pour des gens qui sont adultes et qui veulent apprendre le français. Il y a tout le rôle des médias français, francophones. Mais clairement, les écoles françaises, et il l'a dit, les écoles françaises à l'étranger sont un des acteurs principaux de cette action. Parce que justement, comme je le disais, on a 350 000 élèves dans les lycées français. Et sur ces 350 000, il y en a plus de 200 000 qui sont des étrangers. Donc ils sont des gens qui au départ arrivent dans les écoles, alors certains dès la maternelle, d'autres un peu plus tard, qui parlent pas français au départ, et ensuite à la fin de leur scolarité, s'ils font toute leur scolarité dans les lycées français, ils sortent avec un bac, avec une mention, et ils parlent évidemment parfaitement français, et en plus ils connaissent la culture française, l'histoire française. Donc d'où le fait que le président nous a demandé, alors c'est un objectif ambitieux sur lequel on va tous travailler, de doubler le nombre d'élèves fréquentant les lycées français d'ici 2025. Donc ça veut dire passer de 350 000 à 700 000, ce qui est c'est un vrai travail qui est devant nous. Mais justement pour que plus de jeunes étrangers, alors français bien sûr, parce qu'il y a des endroits où il y a des Français qui voudraient aller dans les écoles et il n'y a plus de place, mais surtout des jeunes étrangers partout en Afrique, en Amérique, en Asie, puissent avoir accès à cet enseignement français, avoir la même chance en fait que vous avez de fréquenter un lycée français.
Et justement, donc, ici nous sommes à Singapour et plus globalement et plus régionalement en Asie du Sud-Est. Est-ce que cette zone est particulièrement visée par l'expansion du réseau de la UFE ou...
Oui, alors déjà elle a beaucoup progressé dans les 30, 40, 50 dernières années, et ici c'est un bon exemple puisque il y a 50 ans il n'y avait rien. Ça a démarré avec quelques dizaines d'élèves et puis ensuite quelques centaines. Aujourd'hui, vous êtes 2800 et l'objectif, c'est d'arriver et de dépasser 4000 élèves ici. Et il y a d'autres pays en Asie où il y a une forte demande à la fois des communautés françaises, mais aussi des gens du pays. Je pense au Vietnam, par exemple, où on a deux lycées, un à Hanoï, un à Ho Chi Minh Ville, qui sont pleins et qu'on essaye d'étendre. Et on pourrait dire la même chose sur d'autres pays de la région, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique aussi, en Australie. Donc clairement, c'est une zone qui nous intéresse parce que c'est une zone évidemment économiquement, stratégiquement importante où il y a des communautés françaises qui augmentent. Et puis on essaye d'avoir, par rapport à cet objectif sur la francophonie, d'avoir de plus en plus d'enfants des pays asiatiques et d'Océanie dans nos lycées.
Et justement, si je me trompe pas, la répartition c'est 60% d'étrangers et 40% de Français ouais. dans le réseau de la UFE. Et vous-même dans vos lycées, quelle est la répartition? Est-ce qu'il y a beaucoup de Portugais? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Espagnols dans vos lycées respectifs? Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne harmonie? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable cet objectif? Qu'en pensez-vous?
Dans mon école, nous sommes beaucoup d'Espagnols et il y a aussi des Français, mais on est surtout des Espagnols. Et je pense qu'il y a une très bonne ambiance entre les deux nationalités. Et aussi, il y en a d'autres comme nationalités. Il y a de tous les pays. Et je pense que c'est un bon objectif de pouvoir qu'il y ait une bonne relation entre les différentes nationalités.
Et donc toi, Lydia, tu es bilingue français-espagnol.
Oui.
Et tu cherches à parler anglais en venant à Singapour.
Exactement.
C'est génial ça. Et toi, Elliot, du coup, comment ça se passe dans ton lycée?
Moi, dans mon lycée, je dirais que c'est à peu près 50-50 environ. Je vois pas trop de différence entre le nombre de Portugais et le nombre de Français. Et on s'entend super bien. Enfin, il n'y a pas de différence particulière.
Donc... on va changer complètement de sujet. La réforme du baccalauréat qui entrera en vigueur en 2021 va, du moins qu'on puisse se dire, bouleverser l'enseignement français. Moins de matières, sélection de ces dernières, mise en avant du contrôle continu. Vous déclariez en 2016 aux antennes de France Culture que les atouts du système français reposaient sur sa différence singulière avec les autres systèmes et la pédagogie plus rigoureuse et cadrée du système français. Pensez-vous que cette réforme réduit ces différences et met au péril l'avantage que ce réseau détient face aux systèmes internationaux comme le baccalauréat international ou le système anglais? Qu'en pensez-vous?
C'est une très bonne question parce que c'est l'un des enjeux de cette réforme. Alors le premier enjeu, ça va être évidemment de l'adapter parce que ça va changer pas mal d'habitudes dans la façon d'enseigner en première, surtout en première en terminale. En seconde, ça va pas trop changer les choses. Donc déjà ça, c'est le premier travail. Et puis le deuxième travail, ça va être exactement ce que vous dites, c'est-à-dire arriver à convaincre que le nouveau bac français, et c'est évidemment notre conviction, non seulement garde toutes les qualités de ce qui fait sa réputation depuis deux siècles, mais en même temps s'adapte plus au contexte international et donc, autrement dit, permet de façon plus facile aux élèves d'accéder aux universités internationales avec le bac. Mais c'est vrai que il va falloir faire ce travail d'explication et de persuasion parce que certains pourraient avoir l'idée qui, pour nous, n'est pas l'idée exacte, mais ça pourrait être l'idée que finalement comme il se rapproche un peu d'autres formes d'examen de fin d'études, comme ce qu'on appelle le IB, le baccalauréat international, il y a une sorte de banalisation du bac français. Donc je crois que le travail de tout le monde, avec le ministère de l'Éducation nationale en France et puis nous dans les lycées à l'étranger, ça va être de bien ajuster ce nouveau bac, de faire en sorte évidemment qu'il garde toute sa qualité, toute sa rigueur. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison de penser que le contrôle continu, ça veut dire moins de rigueur que les épreuves finales. Donc, mais on a ce vrai travail-là. Et puis, il va falloir aussi que chaque lycée s'adapte. Jusqu'à présent, la question c'était est-ce qu'on a toutes les sections dans un lycée, L, S et ES. Bon, maintenant ça va être un peu plus complexe puisque ça sera par discipline. Donc voilà, donc on a un gros travail devant nous pour et on a un an grosso modo puisque les élèves qui vont rentrer en seconde là en septembre seront les premiers à passer le nouveau bac en 2021 et donc pour eux ça sera dans un an en 2019 que les choses changeront vraiment.
Ouais. Et simultanément avec cette réforme, on a aussi la refonte ou le renouveau de Parcoursup. Vous dans vos lycées, comment se passe l'orientation? Avez-vous bien accueilli la réforme de Parcoursup et est-ce que vous êtes accompagné dans votre orientation post-bac? Je vous ai pas demandé, je vous prie de m'excuser. Vous êtes en quelle classe?
Nous sommes en seconde.
Et ouais. Vous y pensez déjà ou pas encore?
Bah, vu que cette année, c'est celle qui nous permet de choisir la filière en première, elle est assez importante pour nous. Donc, à Madrid, on nous aide avec l'orientation. Donc, c'est bien. Avec nos professeurs principaux aussi, ils nous aident à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas pour faire au bac et après dans le futur aussi pour notre métier. Voilà.
Bon, c'est pas très grave, t'as encore le temps d'y réfléchir. Et pour clôturer tout ça, à moins que t'aies une dernière question. Non. Le LFS fête ses 50 ans, d'où votre venue et d'où les célébrations ici. Et c'est un lycée qui s'impose dans la zone Asie du Sud-Est par son excellence académique et par son effectif assez large. Que pensez-vous du lycée en termes d'organisation, en termes d'académique et aussi la place que le lycée détient dans Singapour, de ce que vous avez pu voir? Vous étiez venu à l'inauguration du deuxième campus?
Non, j'étais pas venu pour l'inauguration, mais je suis venu il y a un peu moins de deux ans pour les JIG, pour les Jeux de la Jeunesse qui avaient lieu ici. C'est la troisième fois que je viens au lycée français de Singapour. C'est toujours un plaisir d'être ici parce que d'abord c'est un très beau lycée. Très grand, comme vous l'avez dit, 2800 élèves, ça fait partie des grands lycées français dans le monde.
Avec Madrid, justement.
Effectivement, et d'autres lycées en Europe ou en Maghreb, enfin en Asie, c'est vraiment l'un des plus importants. Et puis l'impression d'ensemble, c'est qu'il y a une très bonne ambiance, que à la fois les élèves, mais vous êtes mieux placé que moi pour le dire, sont plutôt heureux d'être ici et ont la chance d'avoir cet outil formidable. Les équipes d'enseignants aussi, l'ensemble des personnels. Donc c'est un lycée qui fonctionne bien, qui grandit et qui a réussi tout en grandissant à garder sa personnalité parce que il n'y a pas évidemment la même ambiance dans un lycée où il y a presque 3000 élèves que dans un où il y a 1500 ou 800 élèves. Et c'est tout l'enjeu de faire en sorte que quand c'est un grand lycée comme ça, néanmoins ça ne devient pas une usine et qu'on conserve une qualité humaine de relation et je crois que le lycée de Singapour y est arrivé et tant mieux puisqu'il doit encore grandir, il y a encore des perspectives d'accroître les effectifs parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc voilà, mais enfin c'est une belle c'est un très beau lycée, une très belle machine qui marche très bien.
En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances pour la réalisation des objectifs qui seront, à mon avis, très importants et qui bénéficieront à nous tous plus tard si le plus de gens parlent français, l'expansion de la francophonie. On remercie nos invités qui font partie du projet ADN. On vous souhaite le meilleur séjour au lycée français de Singapour et on espère que vous allez vous y plaire, que vous allez réussir vos objectifs vous aussi, soit de parler anglais. Et merci à tout le monde et
merci.
Bon séjour à Singapour.
Merci beaucoup, Lucas.
Merci, au revoir.
Merci.
Merci. Au revoir. Merci à vous et bravo pour vos questions.